Vous êtes de retour à Delirium Environnemental. Avant la pause, c'était Sergent Garcia avec Révolution. Parce qu'en environnement, je pense que chacun doit faire sa petite révolution. Nicolas Mainville, tu nous entretiens d'une horribilité de ce monde. Au Canada, on aurait versé 1,4 milliard aux gens du pétrole et du gaz naturel dernièrement. Qu'est-ce que c'est ça?
En fait, ça, c'est en 2002, hein. Il y a de ces nouvelles, des fois, qui vous jettent par terre. Et puis, celle-là, ça en est une. Comment la traiter? Je pense que, oui, à la base, c'est vraiment ça. On a des programmes au gouvernement fédéral qui donnent certains avantages fiscaux aux compagnies pétrolières, notamment celles qui font l'extraction des sables bitumineux en Alberta.
Donc,
donc c'est vraiment, c'est-à-dire, c'est avec l'argent de nos taxes, le gouvernement prend toute la liberté de prendre cet argent-là et de la remettre dans les magnats du pétrole.
Et voilà. Donc, on pense, entre autres, à des dépenses directes, des dépenses de programme et des avantages fiscaux. Donc, il y a comme trois petites stratégies pour aider ces compagnies-là. Et puis, en 2002, le total de ces petits avantages équivalait à 1,4 milliard de dollars. C'est entre 1996 et 2002. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette tendance va à l'augmentation et non pas à la diminution. Vous savez que le Canada a ratifié le protocole de Kyoto et qu'il va dépenser des sommes assez importantes pour lutter contre les gaz à effet de serre et réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Par contre, les dépenses fédérales dans le secteur ont augmenté de 33% entre 1996 et 2002 et ils vont continuer à augmenter. Ce qui est extrêmement inquiétant, puisque on se dit, en ce moment, le budget fédéral pour l'énergie éolienne, qui est une alternative tout à fait louable au changement climatique, on est d'accord, c'est 225 millions sur 5 ans, OK? Chaque année qui viennent jusqu'à 2007, il devrait avoir augmentation de la réduction des impôts à payer, qui équivaut à 260 millions par année de perdus au fisc fédéral. Donc, vous voyez la différence, 225 millions pour l'éolien en 5 ans, 260 par année qu'on perd à donner dans les poches des superbes, disons-le, multimilliardaires multinationales du pétrole. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un petit peu révoltant?
Quand c'est dans un contexte de lutte au changement climatique, légèrement, pas mal beaucoup.
Surtout qu'on se fait dire que Kyoto va coûter cher, que Kyoto, ça va être difficilement atteignable parce que nos industries sont déjà prises à la gorge, qu'on ne sait plus trop où on va couper. Et là, on encourage, entre autres, les sables bitumineux, on rappelle, qui sont une des façons les plus gaspilleuses au monde de produire du pétrole. Pour chaque baril de pétrole que l'on sort des sables bitumineux, ça a coûté 0,7 à 0,8 barils de pétrole pour faire fonctionner toute la machinerie qui sert à sortir ça. C'est complètement aberrant.
En fait, on peut dire ça comme ça, ou pour deux barils de pétrole, ça nous en coûte un.
Et voilà.
Plus ou moins. Mais imaginez, ce secteur-là, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Ça a augmenté de 56% depuis 1990, depuis cette année de référence qu'on a pour Kyoto. Et ça devrait augmenter de 99% jusqu'en 2010. Donc, c'est un secteur extrêmement polluant, complètement subventionné, qui va à l'encontre de nos intérêts pour Kyoto, et qui est riche comme ça n'a pas de bon sens. Moi, je trouve ça complètement révoltant.
En tout cas, ça va faire une partie intéressante à suivre, surtout qu'on se rappelle que le budget fédéral doit être déposé prochainement par M. Goodale à Ottawa. On va voir comment M. Efford des ressources naturelles, M. Dion, qui pourrait, espérons-le, continuer à tirer un peu sur la couverte comme il le fait avec les automobiles. On change un petit peu de coin de pays, on revient chez nous au Québec. Hugo Lachapelle, l'IREC, l'Institut de recherche en électricité du Québec, accuse Hydro-Québec d'ignorer tout le potentiel éolien que l'on a.
Effectivement, on n'entend pas souvent parler de cet institut de recherche-là. Preuve à faire, en fait, l'institut était financé, est toujours financé, est sous Hydro-Québec, et est financé, avec 1% du budget d'Hydro-Québec, alors qu'il y a quelques années, c'était près de 1,8%. On parle aujourd'hui de quelques 100 millions de dollars de budget, grosso modo, pour financer l'industrie. On a, pour financer la recherche au sein d'Hydro-Québec. On a perdu quelques effectifs, plusieurs employés, en fait, une centaine d'employés qui ont disparu dans les dernières années. Tout ça pour dire que les gens de l'IREC, de l'Institut de recherche en électricité du Québec, sont pas très contents parce qu'en plus, ils nous disent finalement, on a vraiment beaucoup plus de potentiel éolien qu'on le pense et on est capable de l'exploiter de manière très économique, en fait, de manière aussi économique que nos grands barrages. Et le chef de l'IREC, nous dit, M. Jean-Marc Pelletier, nous dit aussi, on n'a certainement pas besoin de gaz naturel au Québec, absolument pas. Des projets comme le Sirois, c'est à toute fin pratique inutile.
Pardon, mais on se rappellera aussi que cet automne, l'Atlas des vents est sorti du côté fédéral et que Sam Amad, ministre des Ressources naturelles du Québec, a promis qu'il allait sortir son propre recueil des vents, soit qu'on ne croit pas à ce que le gouvernement fédéral dise, petite attitude souverainiste peut-être de Sam Amad, un souverainiste peut-être refoulé, mais bref, la preuve est là, les études sont faites, on a du vent au Québec.
On a du vent près de nos lignes et on a du vent accessible sans trop de troubles. Finalement, ce qu'on nous disait, c'est qu'on a fait un premier appel d'offres de 1000 MW. Cet appel d'offres-là, il y en a déjà 500 qui ont été négociés, c'est prêt à partir, c'est en boîte. On a décidé de doubler l'appel d'offres et ce que les chercheurs de l'IRES nous disent, c'est que en fait, c'est pas de 2500 MW qu'on est capable de produire, c'est plutôt quelques 7000 MW qu'on serait capable facilement de produire d'ici 3 ou 4 ans pour l'exportation, pour pallier à nos besoins. Et ainsi de suite. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'on pourrait rajouter un autre 1000 MW par année pour les années à venir, jusqu'à un total de 30-40 000 MW qui serait un estimé à une évaluation conservatrice du potentiel éolien du Québec.
Et toujours dans les thèmes rentables, évidemment, c'est ça qui est intéressant. Hein.
Au prix des nouveaux barrages.
Eh bien, espérons que le virage à l'éolien, comme M. Caillé nous l'a dit la semaine dernière à la commission énergétique parlementaire, eh bien, s'effectuera. On se rappelle qu'on a des potentiels importants, entre autres, tout près du canal de Beauharnois, tout près de Montréal, où il y a des lignes d'électricité, tout près des barrages dans le Grand Nord, où on aurait juste à plugger les éoliennes sur les lignes qui existent déjà. La Gaspésie est déjà fortement soumise à un développement éolien. Et en plus, eh bien, il y a la Côte-Nord qui est dans la mire. Messieurs, c'est un dossier à suivre. On revient. Changement climatique, je pense que c'est pas fini. De retour pour un dernier petit bloc de nouvelles sur les changements climatiques. Nicolas Mainville, ça a l'air que les prédictions de le pire scénario de changement climatique de 5 ou 6 degrés Celsius, eh bien, c'était de la petite bière.
Ben, la petite bière, en fait, on va mettre les choses au clair. Il y a un changement climatique qui est en train de se passer sur cette planète. Et, certains scientifiques sont très alarmistes, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on avait parlé il y a environ un an et demi. Le programme, ben oui, on a des auditeurs assez fidèles. Le programme climateprediction.net, vous savez, c'est ce programme qui vous permet de télécharger sur votre ordinateur personnel un système de modélisation que vous pouvez laisser rouler. Donc, laisser rouler le système pendant que vous n'utilisez pas votre ordinateur. Et puis, chaque ordinateur personnel sont connectés en réseau via Internet et permettent de rouler ces modèles-là gigantesques pour faire de la modélisation climatique. Eh bien, ce super programme qui est parrainé par l'Université d'Oxford vient de sortir ses premiers résultats. En fait, résultats qui nous proviennent de 95 000 ordinateurs de par le monde, où est-ce qu'on a fait rouler plus de 60 modèles climatiques. Et puis, c'est publié dans la revue Nature cette semaine et ça nous dit que nos prédictions d'augmentation de la température sont un petit peu trop basses. En fait, il y aurait possibilité d'augmenter jusqu'à 11 degrés la température moyenne mondiale. Et là, évidemment, on parle toujours de moyenne. Hein. Pensez pas une différence pour nous, 11 degrés, on s'en fout. C'est qu'on parle de moyenne. Donc, évidemment, si augmentation de 11 degrés, c'est extrêmement catastrophique, malheureusement. Ça, c'est le plus extrême qui est sorti comme supposition, comme modèle théorique. Mais on parle d'une moyenne environ de 3,5 degrés d'augmentation d'ici à 2050. Ce qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on prévoyait à l'avant. Pardon. Et puis, vous savez, en ce moment, on est à 0,6 d'augmentation depuis avant l'ère industrielle. Donc, c'est des conclusions qui vont probablement porter une révision des systèmes du GIEC, du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est vraiment la référence mondiale pour les questions climatiques. Je veux juste rajouter un petit quelque chose sur les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Vous savez que le CO2 est le principal gaz à effet de serre. Et puis, on estime qu'à 400 parties par million, c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Une fois qu'on va atteindre cette concentration, là, les scientifiques sont d'accord maintenant aujourd'hui pour dire que ce sera une concentration qui est dangereuse pour l'espèce humaine. En ce moment, où est-ce qu'on est rendu comme concentration? Est-ce que vous le savez? Non. 378 parties par million. Donc, la limite est de 400 et on augmente de 2 parties par million par année. Donc, faites le calcul, d'ici 11 ans, on atteint le 400. Donc, ça laisse plusieurs scientifiques lancer des cris d'alarme. À chaque semaine, on se retrouve avec des articles sur les changements climatiques. Celui-ci en était un. Lisez les journaux.
Et quand tu parlais tout à l'heure de moyenne, de 11 degrés de moyenne, ça veut dire que par certains endroits, ce sera beaucoup plus.
Beaucoup plus, et par certains endroits, il va y avoir des fortes diminutions. Des glaciations à certains endroits, ou en tout cas des périodes de gel intense. En ce moment, en Arctique, il y a des périodes de gel intense que je vous parlerai un petit peu plus tard.
Eh bien, revenons un peu plus près de nous. Qui dit changement climatique dit au Québec transport. Hein, on sait que les transports est un secteur d'émissions de gaz à effet de serre très important. Et une étude sortie par Statistique Canada nous laisse présager que la ville de Montréal a un statut quelque peu particulier au niveau canadien et que ce ne sont pas nécessairement ce qu'on pourrait appeler les Québécois de souche qui sont les meilleurs exemples des utilisateurs de transports en commun.
Tout à fait. Ce que Statistique Canada nous révèle cette semaine, c'est qu'en fait, c'est plutôt à la fin de la semaine passée, c'est que partout au Canada, dans toutes les grandes villes, les immigrants sont les plus grands utilisateurs du transport en commun. On parle parfois des niveaux qui vont jusqu'à 30%. Par contre, dans la ville de Montréal, 30% des immigrants seraient usagers du transport en commun pour aller au travail. J'excuse. Alors que dans la plupart des grandes villes du Canada, le Canadien ou Québécois de souche et ainsi de suite utiliserait le transport en commun environ à 21%. Et non, plutôt, à Montréal à 21%, dans les autres grandes villes canadiennes, beaucoup plus, alentour de 14, 11%, 19% pour Ottawa et 21% pour Toronto aussi. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est que finalement, lorsqu'on regarde à long terme les immigrants vont souvent dans les autres villes canadiennes, vont arrêter de prendre le transport en commun et on associe ça souvent au fait qu'ils ont un niveau de vie qui augmente. Ils deviennent plus aptes à se payer leur propre voiture, alors qu'à Montréal, ils ne le font pas. Est-ce que c'est parce que leur niveau de vie reste bas ou c'est parce qu'on a quelque chose d'autre de plus à offrir? Est-ce que notre système de transport est plus efficace? C'est ce que beaucoup de personnes soulignent, en fait. Voilà.
Donc, ce qui ressort un peu de cette étude-là, c'est de se dire que présentement, c'est davantage. Ça m'écœure toujours un peu d'utiliser cette expression-là de Québécois de souche. Mais bref, on a une attitude beaucoup plus réservée face à l'utilisation du transport en commun que les nouveaux arrivants qui vivent chez nous.
Ben, ce qu'on nous dit, c'est un peu ça, qu'on serait pas mal le problème dans cette game-là. Peut-être tu fais intéressant aussi, c'est les femmes qui utiliseraient plus le transport en commun que les hommes en général, toutes données confondues en toutes les différentes villes, et qu'en termes d'immigrants, ce seraient les Africains et les Sud-Américains qui, dans nos villes, seraient les plus grands utilisateurs de transport en commun.
Eh bien, peut-être qu'il est temps donc que le fameux mâle dans la quarantaine, hétérosexuel, québécois, eh bien, et aussi trop souvent tripeux de char, eh bien, qu'on l'éduque un petit peu plus aux réalités, parce que ça a l'air que tout le monde autour de lui comprend de plus en plus c'est quoi qui se passe. Transport en commun, on se rappelle, c'est l'affaire de tous. On avait des belles statistiques qui nous disaient que pour la première fois dans les 5 dernières années, le niveau d'utilisation du transport en commun à Montréal a arrêté de décroître et qu'on est enfin stabilisé. Eh bien, c'est peut-être un bon signe pour l'avenir. Faut changer les mœurs. Eh bien, revenons un peu à nos moutons ou à notre environnement. Dernier bloc de cette revue de l'actualité, c'est celui que vous appréciez fortement, celui des brèves, les nouvelles de la semaine. Je me lance avec la couche d'ozone, mesdames et messieurs. Avez-vous déjà entendu parler de ça, la couche d'ozone? Eh bien, imaginez-vous que ce n'est pas seulement la couche d'ozone en Antarctique qui est menacée. Vous savez que le plus gros trou de la couche d'ozone, c'est dans l'Antarctique. Eh bien, apparemment, dans la zone arctique, en ce moment, il y a des gros problèmes, notamment dû au froid. Eh bien oui, le froid avec les composés chimiques qui affectent la couche d'ozone sont en train de diminuer son épaisseur et on a remarqué depuis les années 80 un rétrécissement de cette couche et même à certains endroits, une disparition inquiétante. Mais ce qu'on nous dit, c'est que cette variation est très, très variable dans le temps. Ça se dit, ça?
Ça varie, là.
Oh, oui, ça varie. Très variable.
Eh bien, il y a M. Francœur qui, dans le Devoir, nous a parlé cette semaine des chemins forestiers, l'entretien des chemins forestiers. Alors, il y aurait eu un mémoire qui aurait été déposé à la commission Coulomb, la commission sur les forêts, où on aurait, en fait, c'est un mémoire qui a été déposé par les ZEC,
les zones
d'exploitation contrôlées des Hautes-Laurentides, qui eux auraient fait des études pour nous dire que finalement, il y a 83% des différents ponceaux qui passent par-dessus les cours d'eau sur les chemins forestiers qui ne seraient pas aux normes, qui ne correspondraient pas aux normes du gouvernement. Alors ça, il faut regarder ça en détail.
Eh bien, je vous amène faire un petit tour du côté de la ville de San Francisco. San Francisco, le mardi 25 janvier dernier, qui votait une interdiction de fumer dans tous les parcs, squares et autres espaces publics. Ceux qui vont enfreindre cette nouvelle loi encourent une amende de $100. Les villes de Pasadena, Santa Monica et Beverly Hills ont déjà adopté cette réglementation-là. Je vous amène simplement le sujet parce qu'on sait qu'au Québec, ce printemps, c'est un débat qui risque d'en faire parler plus d'un et de faire couler beaucoup d'encre. C'est déjà commencé. Autre chose à San Francisco, faut mentionner la taxe sur les sacs de plastique. 7 sous du sac, quand même audacieux comme plan. On félicite les gens de San Francisco, vive la gauche. Je m'en vais en Inde, juste pour vous. Vous vous rappelez du gros brun? Ce gros nuage de 3 km d'épais qui se promène, qui passe de l'Asie jusqu'aux États-Unis à chaque année en février. Eh bien, il y a des nouvelles données satellites qui nous montrent un épais nuage de pollution dans la vallée du Gange en Inde, qui ne serait pas le gros brun, mais c'est un phénomène assez similaire où est-ce qu'il y a une quantité impressionnante de pollution qui est concentrée dans cette région-là. En fait, on parle de concentration 5 fois supérieure au pire smog de Los Angeles. Et donc, c'est 100 millions de personnes exposées à des concentrations inquiétantes de polluants en ce moment même dans la vallée du Gange. Des statistiques inquiétantes, vous devriez aller voir ça sur le site de la NASA. En fait, allez voir sur notre site internet, vous allez voir la nouvelle. www.radiodelirium.net.
Vous connaissez Todd Littman, le grand chercheur en transport de Colombie-Britannique. On a souvent parlé de plusieurs de ses rapports ici à l'émission. Alors, il a fait une réanalyse des données démographiques des dernières années pour s'apercevoir que les 32% de la population qu'on appelle les baby boomers, qui sont en croissance, eh bien, on se demande si on serait pas en train de bâtir trop d'autoroutes et pas assez de transports en commun. On pense que les tendances de vieillissement de la population vont faire en sorte que les gens vont conduire moins et utiliser beaucoup plus de services en transport en commun. On peut le voir sur le plateau Mont-Royal où il y a de plus en plus de gens du troisième âge qui viennent passer leurs vieux jours sur notre beau plateau.
Eh bien, je vous amène dans quel coin du monde? Selon vous, eh bien, c'est San Francisco encore qui fait toujours plus parler d'elle. Eh bien, la Commission sur l'environnement de San Francisco a proposé l'adoption d'une taxe de 17 cents sur chaque sac d'épicerie, plastique ou papier. Ce serait la première ville à le faire. On sait qu'en Irlande, en Afrique du Sud, en Australie et au Bangladesh, ce genre de mesure existe déjà. À San Francisco, c'est 50 millions de sacs de plastique qui sont distribués chaque année. Eh bien, mesdames et messieurs, on est probablement la seule émission environnementale au monde qui est capable de vous fournir la même nouvelle 2 fois en moins de 2 minutes. Mais on vient de le faire! Wow! Hey! Record de tornade en 2004 aux États-Unis. Incroyable! Y croyez-vous au changement climatique? 1555 tornades enregistrées aux États-Unis. Ça bat de beaucoup le record. Mais quand même, on nous dit que les instruments sont de plus en plus sophistiqués et qu'on en mesure plus. Mais c'est une augmentation impressionnante.
Alors qu'en fin de semaine, l'Algérie, mesdames et messieurs, a été frappée par la plus grande tempête de neige depuis plus de 50 ans. Il y a pas mal de monde là-bas qui se gratte la tête en se disant Ai-je des pellicules? Non!
Eh bien, je vous amène où? Je vous amène à San Francisco, on taxe les sacs de plastique. Bien non, bien non, c'est pas ça. Au Québec, l'urbanisation gagne du terrain. On vous parle de plus en plus d'étalement urbain, entre autres avec le, en lien avec le projet d'autoroute 25 qui s'amène. Eh bien, dites-vous que de 1951 à 2001, les terres agricoles cultivables au Québec ont diminué de 4%. Et 4%, c'est peut-être pas beaucoup, mais quand on sait qu'on est un pays nordique où le nombre de terres cultivables est déjà très restreint à cause de notre situation géographique, eh bien, c'est une donnée qui est très, très préoccupante. Surtout lorsqu'on observe à la sortie du pont Champlain en regardant vers Brossard ces beaux petits patelins de maisons qui se développent où avant des beaux champs de maïs se perdaient à perte de vue. Ça se perd.
Eh bien, moi, j'aimerais vous amener à San Francisco.
Je me lance sur une nouvelle qui va plaire à Sofiane Legendre, notre animatrice bien chérie. Le tributylétain, avez-vous entendu parler de cet agent chimique qui est mis sur les coques de bateaux pour pas que les crustacés s'y fixent? Eh bien, on est en train de découvrir, en fait, une étude faite par l'Université de Yale qui nous dit que ce produit chimique entraîne la surdité chez les baleines et ça pourrait provoquer ces espèces de collisions de masse avec les berges. Quand les baleines s'échouent, c'est en fait un phénomène évidemment très tragique. Eh bien, ce tributylétain serait peut-être la cause de ces problèmes environnementaux.
Vous rappelez-vous du Exxon Valdez, le grand pétrolier qui s'est écrasé en Alaska en 1989? Eh bien, il y a eu une conférence cette semaine, une conférence de trois jours, où des chercheurs se sont entendus pour dire que 15 ans après, il y a encore plein de problèmes qui sont liés au déversement de pétrole. On parle entre autres de pétrole pris dans les sables et de différentes variétés d'oiseaux qui ont été complètement maganés.
Mais pendant que tu parles d'Alaska, on n'a pas le choix de passer. On peut pas passer à côté, pardon, de la question des ours polaires. Donc, l'ours polaire, vous savez, qui est évidemment gravement menacé par les changements climatiques dus à la fonte des glaces, eh bien, le Groenland va autoriser la chasse aux ours polaires, mesdames et messieurs. Imaginez-vous qu'il y a un programme qui est en train de s'instaurer, qui va être en marche d'ici septembre, qui va favoriser la présence des touristes au Groenland pour financer les activités de chasse traditionnelles à l'ours polaire au Groenland. Donc, un programme qui est évidemment décrié par Brigitte Bardot elle-même, qui est la défenseuse...
défense... Canadienne de Montréal.
Donc, tout ça pour dire que c'est évidemment une problématique à considérer, puisque même au Canada, ici, on finance la chasse traditionnelle. L'ours polaire, qui devrait disparaître selon le Fonds mondial pour la nature d'ici 20 ans dû à la fonte des glaces, des nouvelles tragiques comme ça, est-ce qu'on a vraiment place à la chasse? C'est une question qu'on doit se poser en tant que société.
Eh bien, c'est ce qui met fin à nos brèves où San Francisco fut à l'honneur, inutile de le rappeler. De retour en dernière partie de l'émission, on s'entretient avec Monsieur Sylvain Castonguay du CEVEC, le Centre d'expérimentation des voitures électriques du Québec, qui va venir nous parler de ces nouvelles technologies qui frappent à nos portes, mais qui malheureusement sont encore trop peu appuyées par nos gouvernements.
Écoutez la petite guitare. On est un peu jaloux qu'ils arrivent avant nous, mais on les laisse passer dans les embouteillages quand les motards te font merci avec les pieds, merci avec les pieds. Ce ne sont pas des êtres humains, mais une espèce de Mars intérieur. Ils ne connaissent pas la langue des mains. Ils vont les voir foncer libres comme l'air, heureux comme des gorillons. Ils ont l'air épanouis à casque sur la tête et à leurs mains des gants. Ils font tous sur leur moto, mais la seule chose qu'ils ne pourront pas, c'est dormir en roulant, sinon le drap s'envolera, tu comprends? Dans les embouteillages, tu penses autant tout temps, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées, passent entre les camions citernes et les quatre ailes de pompiers. Les filles sont en voiture, contrairement aux motards qui sont en moto, bien qu'il y ait des filles en moto, mais sous leur cuir, on ne les voit pas bien, on ne voit pas leurs seins. Surtout que sous un casque, on peut pas deviner si c'est un vieux hippie, un vieux skinhead ou une pure beauté. Si par hasard dans un embouteillage tu croises la femme de ta vie, mais assis à côté d'elle, il y a déjà un petit mari barbu mais gentil. Rends mal ton sourire de veau, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Rends mal ton sourire de veau, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Alright. Dans les embouteillages, tu penses trop en tant que temps, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arts, les accrédits, les japonaises débridées passent entre les camions citernés, les 4L. Dans les embouteillages, tu penses autant autant qu'au temps où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arts, les accrédits, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les 4L de pompiers, virgule. Quand les filles se maquillent dans les rétroviseurs, moi j'ai même pas peur qu'elles oublient de freiner les routiers du haut de leur cabine, les traitent de femmes au volant. Mais en secret, ils aimeraient bien les emmener. Amoureux des sirènes, les ambulanciers sont les marins des départementales. Salauds de séducteurs, ils ont une infirmière dans chaque hôpital. Ils collectionnent les filles, ils multiplient les aventures. Et leur spécialité, c'est l'amour en voiture. Sais-tu qu'il y a des infirmiers qui soignent les blessés en leur mettant des disques et des cassettes, la musicothérapie au service de la fracture ouverte. Pour Alain Bago, Nougaro ou alors Django, fait de jambes cassées, assez d'essais et fait soigner. Dans les embouteillages, tu penses autant qu'au temps, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les armées à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions cernés et les 4L. Dans les embouteillages, tu penses autant qu'au temps, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les armées à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions cernés et les 4L.